Bien, bonsoir à tout le monde. Vous faites partie des lettres d'Argentine, enfin vous venez dans ce programme-là.
Je ne sais plus d'où je fais partie, mais je peux vous dire.
Pourtant, à vous lire, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué que cette simple, peut-être, appartenance à lettres d'Argentine. Vous avez un nom, le prénom Sylvia, et un nom qui sonne extrêmement français. Alors, au lieu de faire votre présentation biographique telle que j'ai pu la trouver, j'aimerais bien que ce soit vous qui, en quelques mots, vous présentiez.
Comme je ne me suis jamais sentie, disons, sûre de pouvoir écrire en français correctement, J'ai voulu m'essayer dans tous les domaines. Je me rends compte qu'il y a des domaines où je suis moins bonne ou peut-être moins efficace, mais j'aime essayer. Alors, c'est pour ça que c'est assez varié. C'est un peu avec cet esprit. De la même manière que je me suis essayée à la traduction et que j'étais tellement séduite que ça a accompagné la traduction de moi-même, un peu le changement de langue, et aussi j'ai voulu que d'autres changent de langue, des auteurs que j'aimais. Mais ça, oui, j'aime la diversité, et déjà je suis en train de penser quelle autre diversité je peux trouver. Et j'aime aussi mélanger les genres littéraires, j'aime pas qu'ils soient figés. Vous voyez ?
Oui.
J'aime pas, si c'est un roman, même s'il est un peu désorganisé, ben c'est un roman. L'autre, c'est un journal, mais qui se termine. Ce n'est pas un long journal de toute la vie qu'on écrit tous les soirs. Non, c'est aussi un journal qui veut dire autre chose. Et ainsi de suite avec mes livres. L'alphabet du feu, c'est un peu un essai sur la langue. Mais pas un essai comme, disons, universitaire. C'est un peu aussi une histoire. Parce qu'ici, il y a le reste à la fin.
Oui.
Ils sont tous là.
Oui, voilà.
Voilà. Hein? Mais je dois dire que je suis très fière de. Quand j'ai vu toutes les traductions, je me suis dit, ça c'est incroyable tout ce que j'ai fait comme traduction. Parce que c'est presque le même nombre de livres écrits par moi que de traductions. Et c'est merveilleux. Parce que c'est quelque chose qui vous accompagne. Alors, qui remplit les vides, parce que tout de même, il y a des vides entre un livre et l'autre. On ne sait plus très bien quel chemin prendre. Et puis on a une traduction sur la table.
Alors, vous avez traduit de façon importante en langue française, c'est-à-dire de l'espagnol vers le français. Oui. Et pas des moindres, je vais en citer quelques-uns. Borges, dont on va reparler, parce qu'on le retrouve dans Le Pont International. Enfin, pas lui, mais quelque chose de son œuvre. Macedonio Fernandez, Roberto Juarros également, Silvina Ocampo, plusieurs fois, Cortázar, on retrouve les lettres argentines, enfin des auteurs argentins ou latino-américains, mais aussi Thérèse Davila. Et dans l'autre sens, alors traduction en langue espagnole, une seule.
C'est Marguerite Yourcenar, oui.
Marguerite Yourcenar.
Oui, ben ça me compliquait un peu de continuer en espagnol, de faire des traductions en espagnol.
Et pourtant, c'est votre langue, vous la parlez aussi bien que le français.
Oui, je ne sais pas. On la perd un peu, hein, malheureusement. Oui, on la perd, et je n'aime pas du tout ça. Mais enfin, j'essaye de la garder tout de même. Je téléphone en Argentine. Par Skype, par l'ordinateur, parce que tous les jours avec ma sœur, et donc c'est comme ça que je garde mon espagnol, et parfois elle me dit « qu'est-ce que tu dis ?» et je dis « je sais que j'ai commis une erreur ». Malheureusement, moi je crois que la langue maternelle se perd, et elle n'est pas très fixe, cette langue maternelle. On en fait une grande histoire, mais elle s'en va, elle se dissipe, et on reste un petit peu à l'étranger et elle se dissipe. Il faut faire beaucoup d'efforts et il faut essayer de ne pas la perdre parce qu'on perd aussi un morceau de sa vie. Donc.
Bien sûr.
Mais voilà. pour les traductions.
Alors, parlons de ce dernier livre, hein, le Pont international. Lui aussi, alors tout à l'heure, vous m'avez dit, j'espère que vous n'avez pas eu trop de, comment vous m'avez dit, de problèmes avec mon livre, parce que c'est difficile. Ils sont, on me dit toujours, des livres complexes, c'est ça qu'on vous dit, ou difficiles en tous les cas. Alors, je vous ai répondu, non, ça va. En fait, c'est pas vrai. On ne peut pas dire que ça soit un livre difficile, mais c'est en effet un livre un peu complexe. Un peu complexe dans sa construction, dans son histoire, dans le sens de son histoire. Il faut lire un peu pour s'apercevoir qu'en fait, c'est une série d'histoires. C'est une histoire qui croise 1000 histoires. Et c'est une histoire qui croise 1000 histoires de lecture. Donc, c'est un récit très, très en abîme, hein, qui évoque un écrivain qui a des personnes, quelqu'un qui lit, du moins, qui est un lecteur, oui. Et qui fait vivre des personnages qui eux-mêmes lisent. Enfin, c'est un récit, une construction en abîme, qui renvoie comme ça à un infini de l'histoire.
Alors, oui, j'ai commencé par relire cette nouvelle de Borges qui s'appelle Funès et la mémoire.
Un des thèmes importants chez vous. Hein.
Oui, alors c'est l'histoire d'un jeune garçon uruguayen, et ça m'avait beaucoup frappé, parce que Funès était né à Fray Bentos, un petit village qui est à côté du fleuve Uruguay. Et Funès était un jeune garçon qui vivait à cheval comme ça, seul, et toujours. Et il avait la maladie de la mémoire, c'est-à-dire que tout ce qu'il voyait,
il le retenait.
Et même s'il ne le voyait pas, il l'imaginait. Il connaissait tous les livres, il savait tout. Et voilà, et alors donc, Borges raconte dans cette histoire qu'un jour, il est avec un cousin, parce que Borges était moitié uruguayen. Donc nous avions cette chose en commun, et qui était très forte. Et il va, pour les vacances, il va dans une propriété près de Fray Bentos, où il a un cousin qui s'appelle Antonio Aedo. Et un jour, ils sont à cheval, comme ça, en train de faire une promenade, ils sont très jeunes. Et ce garçon, Antonio Aedo, son cousin, lui dit, « Tiens, voilà Funès. Il a la maladie de la mémoire, il est très malade. » Et il ne vit absolument pas le présent, il est tout le temps couché, ou alors à cheval. Bon. Et donc, le jeune Borges, dit, mais ça m'intéresse beaucoup, je veux le connaître. Donc il l'arrête et il va le voir, et il est fasciné par lui. C'est un garçon qui fume comme ça, étendu sur son lit, qui regarde les arbres de l'autre côté de la fenêtre et tout ça. Et alors Borges va et lui dit, mais... Qu'est-ce que tu sais en plus qu'est-ce que... Alors, il lui fait des questions. Et il est tellement fasciné qu'il va le voir tous les jours. Mmh. Et il lui donne des livres. Et Funès sait chaque fois plus. Bon. L'histoire est merveilleuse et se termine d'un coup. Funès est mort d'une congestion pulmonaire. Et alors, moi, je lis ça, je dis, mais pourquoi il l'a fait mourir comme ça? Parce que c'était le garçon le plus romantique et le plus... extraordinaire, on a envie de savoir comment il va se développer dans la vie et comment il va connaître l'amour, par exemple, ce jeune. Et donc, je me suis dit, et c'est Antonio Aedo, parce que Antonio Aedo, ce cousin, raconte tout ça. Je veux le faire vivre plus. Alors, il le sort, disons, de son livre, il le fait se lever et Funès tombe amoureux d'une jeune femme qu'il voit passer, etc. De fil en aiguille, je suis tellement enthousiasmée avec tout ça que je fais que ce personnage, Antonio Aedo, toujours, qui est déjà vieux, qui a des souvenirs, beaucoup de ses lectures, pense à d'autres. C'est-à-dire, par exemple, un personnage qui s'appelle Larsen, un grand écrivain uruguayen qui s'appelait Juan Carlos Onetti. Et donc ce personnage, Larsen, aimait tellement les deux villes, Buenos Aires et Montevideo, qui ne savait pas comment faire pour exister dans l'un et l'autre et qu'on ne l'oublie pas.
Alors il passait son temps. Un peu comme vous.
Un peu comme moi. Il passait son temps, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il passait son temps à aller tout le temps en bateau de l'un à l'autre. Bon. Et puis, dans Larsen, et ensuite, il se trouve que la mère de ce Funes aime lire beaucoup aussi. Non, donc, alors, pour communiquer avec son fils, qui est très silencieux, elle lui lance parfois, tu te souviens d'une telle, un personnage. Donc apparaît aussi un personnage de Conrad et apparaît aussi un personnage d'autres. Enfin, je ne sais pas, il y a deux ou trois de Willy Cather et deux ou trois.
Et Beckett.
Et de Beckett, les jours heureux ou les beaux jours. Et voilà, et donc ça se noue comme ça, c'est-à-dire que les personnages que je nomme et qui sont vrais aiment lire aussi, donc ils ont aussi des souvenirs. Et alors Antonio aide aussi, donc ça se mélange comme ça. Bon, je me suis fait plaisir parce que tous ces personnages sont des personnages que j'ai aimés et bien sûr où je me suis un petit peu reconnue. Quelque part, ils sont très étranges, ils ne savent pas d'où ils viennent, d'où ils sont vraiment. Et en me souvenant d'eux et aussi en transcrivant un petit peu des passages de ces livres, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi étranges que les êtres humains et qu'en fait on retrouvait beaucoup des personnages de comme Funes ou Larsen, etc., dans la vie, mais que peut-être on s'éloignait d'eux parce qu'on ne pouvait vraiment pas communiquer. Alors, mais qu'il y avait énormément, et qu'en fait les personnages de fiction étaient encore plus réels que les personnages de la vie, ou plus ou moins pareils, etc. Bon, je me suis laissée, disons, conduire, et jusqu'à la mort de ce monsieur Antonio Aedo, qui est celui qui se souvient de ses lectures. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense aussi pour les gens qui n'ont pas lu ces livres. C'est vrai que pour moi, ils ont été très beaux et très inspirateurs, mais
non,
pas tout
je trouve en fait que ça se lit aussi, ça peut se lire à différents degrés. On peut reconnaître les personnages, on peut reconnaître un personnage de Beckett si on le reconnaît, mais on peut lire l'histoire sans reconnaître ça. Moi, je pense, il faudrait que des lecteurs nous le confirment, mais je trouve que ça peut se lire aussi sans ça, parce que l'histoire, elle tient en même temps, avec tous ces renvois de personnage en personnage.
Ce qui veut dire, à mon avis, parce qu'on se rend compte ce qu'on a voulu dire à la fin du livre.
Oui, et parfois.
Donc, ce qui veut dire que les souvenirs sont un peu la terre de tout le monde, et que ce monsieur qui se souvient, lui, il mélange dans sa tête, parce qu'il se souvient d'une femme qu'il a aimée en Uruguay, et qu'il a dû se séparer d'elle, les circonstances de la vie. Il se souvient aussi de sa mère qui est restée en Uruguay, etc. Et il se souvient de ses promenades avec son cousin, qui était Borges, non, qui s'appelle Johnny, là, et à cheval, etc. Et lui, il attend la mort, en fait. Il est assis devant une fenêtre tous les soirs. C'est un avocat très connu. Il revient chez lui, il s'assoit, et il pense à ses souvenirs. Et c'est aussi, j'ai pensé que, en fait, pour moi aussi, ma vraie terre maintenant, c'est mes souvenirs. C'est pour ça que je me suis projetée un peu à travers ce personnage.
Alors, les premières lignes, elles figurent sur la quatrième de couverture pour que vous entendiez un peu le début du texte, donc, de Sylvia Baron. Antonio Aedo est un vieux monsieur maintenant. C'est pourquoi il est temps qu'il en témoigne, qu'il dise les choses telles qu'il les voit, qu'il parle de ce qu'il porte comme un souffle. Il ne saurait pas le dire au juste. Ça tourne autour de l'Uruguay de sa jeunesse et spécialement de Fray Bentos où il passait ses étés avec sa famille. Étant doté d'un port, la ville accueillait de larges bateaux sur la rive gauche du fleuve Uruguay qui sépare l'Uruguay de l'Argentine. Plus qu'un souvenir, c'est un sentiment qu'il éprouve. Il se précise lorsqu'il parcourt des photographies, relit des livres, voit des cours d'eau s'enfuir à travers la vitre d'un train. Il aperçoit alors d'autres paysages, des scènes, des visages. Antonio n'est pas certain de vouloir y revenir, mais le sentiment est près de lui, même quand il ne lui montre rien. Depuis longtemps, il attend un son, une lumière qui surgirait des photographies, des objets, des livres. mais ce qu'il attend, il le sait, est déjà arrivé. Il est en vie grâce à ce sentiment qu'il habite et l'exonère du temps. Lorsqu'il croit qu'il s'est dissipé, il le retrouve en effleurant des yeux le mystère des choses. Voilà. C'est le début, c'est l'entrée en matière, et finalement, c'est ce qui va être raconté. C'est ce monsieur
qui se souvient.
Qui raconte un peu toutes ces histoires croisées de personnages. Et dans ces histoires, il y a bien sûr ce personnage, mais il y a aussi un fleuve très important des paysages, le fleuve Uruguay, qui est frontière entre deux pays. Ces personnages, vous l'avez dit, sont errants, un peu erratiques, mais ils sont aussi entre deux fleuves, entre deux cultures, entre deux mondes. D'une certaine façon, ça leur donne une consistance, au moins, de poète. Ils sont peut-être erratiques, mais ils sont poètes, dans la réalité.
Ils ont tous, je me suis dans rendu compte aussi, ils ont tous envie de partir.
Oui. Certains partent.
Il y a un pont. Un pont qui s'appelle le pont international. Incroyable le nom, parce que ce pont, on dirait pont international, vous savez, qui parcourt l'univers. Non, c'était un tout petit pont qui sépare l'Uruguay. Mais à un moment, parce que le Rio de la Plata est très large, il a 30 km de large. Mais après, il devient très étroit et il monte entre l'Uruguay, l'Argentine. Et après, il continue le Brésil et l'Argentine. Et à un moment donné, il est assez étroit. Il a un kilomètre, le pont a un kilomètre, plus ou moins. Et depuis, il existe depuis toujours. Il a eu des problèmes maintenant avec ce pont. Et ça, je ne voulais pas en parler. Des problèmes entre l'Argentine et l'Uruguay. Mais donc, ce pont tout petit qu'il y avait à Fray Bentos s'appelait le pont international. Et les gens de Fray Bentos, ce petit village, habitaient à côté de ce pont et ne rêvaient que de traverser ce pont. Parce que ce pont les menait en Argentine, où ils avaient entendu dire que tout était beaucoup plus grand, tout était beaucoup plus beau, que la terre avait une couleur différente, qu'il y avait d'autres fruits, d'autres arbres, d'autres beautés, d'autres étoiles. Et donc, ils rêvent de ça. À tel point que des personnes, disons, communes, normales, non, comme la mère de Funes, et une autre femme, une amie à elle, tout d'un coup lâchent tout, lâchent leur famille, leur maison, etc., et s'en vont parce que ce pont est si fort qu'ils veulent le traverser, ils partent. Et bon, Antonio Aedo aussi a traversé de l'Uruguay en Argentine, il est aussi un peu étranger là où il est. Et c'est tous, et en fait, les personnages que j'ai choisis, mais je me suis rendu compte, comme je vous disais après, sont tous des gens sortis et arrivés ailleurs et partis.
Mais peut-être qui sont toujours un peu ailleurs aussi.
Et qui restent ailleurs.
Comment
peut-être moi aussi. bon, c'est ça qui est venu sous ma plume, parce qu'en fait, il y a une espèce d'univers qui commence à se créer quand on commence à écrire un livre, et donc qui vous mène aussi. Et donc on veut suivre ce fil, ce cours d'eau, et rester toujours dans cette ambiance, et voilà ce qui se passe, et où on est mené, donc, d'un personnage à l'autre, et d'une histoire à l'autre. Puis ça m'a amusé aussi d'écrire un livre sur d'autres livres, et sur d'autres personnages, et dire combien les personnages ont compté pour moi.
Ou la littérature.
Ou la littérature, pour dire combien ils étaient importants dans leur étrangeté et définitive. Et il n'y a pas de psychanalyste ni de rien autour d'eux. Et combien...
En tous les cas, ils résistent bien.
Ils résistent bien. Et combien, chez eux, chacun, il y a une certaine vérité qui se dégage dans leur action. Et donc, j'ai beaucoup aimé mettre ça en relief, disons. Mais ça s'est produit peu à peu.
Alors, justement, parmi tous ces personnages, d'ailleurs, vous les indiquez, hein, vous indiquez les emprunts à la fin.
À la fin.
Si on retrouve donc Merci, je vais les retrouver.
C'est ici.
Oui, c'est ça. Donc, Funès, hein, ou La mémoire, qui est cette nouvelle de Borges, Le chantier d'Onetti, que vous évoquiez, L'agent secret de Conrad et La folie Almeyer, Oh les beaux jours de Beckett, Lucy Gay Earth de Willa Carter, que je ne connais pas. Non, celui-là, moi, je ne le connais pas. Et La roue du malheur de De Quincey, également,
oui,
qui est cité. Et parmi tous ces personnages, il y a ces personnages de femmes que, personnellement, j'ai beaucoup aimés. En particulier, donc, ces deux femmes.
Ah oui, elles sont marrantes.
Ah oui, elles sont...
Elles sont géniales, je trouve.
Oui.
Ça, j'ai beaucoup aimé le faire. Non, parce qu'elles ne se conduisent pas normalement du tout.
Ah non, non.
Non.
Mais pas mal non plus.
Non, parce qu'il y a la mère de ce Funès qui est malade. Non, parce que c'est un garçon qui est malade. Et donc, il ne lui parle pas, qu'il ne lui livre pas. Voilà que maintenant, il s'est levé du lit, il est allé, il a vu une femme, il est fou d'amour, alors il ne parle plus. Avant, il avait la mémoire, maintenant, il a l'amour. Et donc, c'est tout le temps quelque chose. Elle vit complètement seule, isolée. Son fils ne lui parle plus. Et donc, voilà. Et puis après, il y a une autre... Ça, elle s'appelle Emilia, non?
Emilia, oui.
Et donc, après, il y a une autre femme qui s'appelle Rosa. Elles ont eu le même mari, d'ailleurs. Bon. Et alors, Rosa, sa fille disparaît un jour. Elle se suicide. Bon. Et on pourrait croire qu'elle va être désespérée. Et tout, à pleurer tout le temps et tout. Pas du tout, elle dit, ma fille était très étrange, elle n'est pas connue très bien, elle est blanchisseuse et tout. Et voilà que les deux femmes se disent, moi j'ai envie de partir.
En fait, elles se connaissaient.
Elles se connaissaient.
Elles se connaissaient, elles étaient amies d'enfance.
Voilà.
Séparées par la vie.
Oui.
Et puis, cependant réunies à cause de cet homme qui est passé de l'une à l'autre.
Oui.
Et elles se retrouvent.
Et elle se retrouve, et alors, cette Emilia, on dirait qu'il faudrait qu'elle reste avec son fils, qui est malade toujours, parce qu'il n'est pas malade de la mémoire, il est malade de l'amour, mais il ne peut rien faire sans elle, il ne fait pas la cuisine, il ne fait rien dans la maison, etc. Eh bien non, elle dit j'en ai marre, elle boit quelques verres d'alcool, comme ça, et elle va chercher sa copine à Fraiventos. Rosa, elle lui dit, moi j'en ai marre, je veux partir. Et comme Rosa, juste à ce moment-là, elle en avait marre de tout aussi. Mmh. Elles partent tous les deux sur le pont international. Bras dessus, elles plaquent tout. Elles plaquent tout, leur passé et tout. Mais ce que j'ai aimé le faire...
Mais ça, c'est vous qui l'avez créé.
Oui, je sais.
Ça, c'est vous qui l'avez créé, parce que vous les empruntez à des livres. Mais
non, mais celles-là sont à moi, oui.
Ah oui.
Et celles-là sont à moi, mais j'ai trouvé que c'était dans la ligne aussi.
Non, mais c'est très bien.
De l'absurde. Mais celles-là sont à moi parce que... Elles sont complètement illogiques. Enfin, une devait être morte de tristesse puisque sa fille vient de se jeter au fleuve. Elle n'est pas du tout. Elle dit, mais elle était comme ça, elle a toujours été bizarre. Alors, voilà. Bon, l'autre, elle devrait être accrochée à son fils, non, qui est malade et tout ça. Et ben, un jour, elles disent tous les deux, bon, maintenant c'est fini. Et ils disent, on va être enfin libres.
Oui, elles sont extraordinairement vivantes, en fait.
Voilà.
Parce qu'elles ont...
Alors,
mari commun n'était pas drôle non plus.
Non.
Donc,
non. Elles partent sur le pont, bras dessus, bras dessous. Elles commencent à chanter des tangos. Et elles sont heureuses. Elles voient l'avenir. Elles traversent. Elles arrivent à la rive argentine, qui est un rêve pour elles. Et puis, une après s'installe, une fait la blanchisserie et l'autre fait la couture, etc. Elles ont une petite boutique et l'histoire de Rosa et de Emilia se termine là. Mais j'ai aimé... Bon, les autres, ils étaient créés déjà, non, par d'autres auteurs. Je les ai choisis parce qu'ils me ressemblaient aussi un peu. Mais les deux, là, j'ai beaucoup aimé parce que d'ailleurs, elles bougeaient par elles-mêmes et elles m'indiquaient ce qu'elles voulaient faire. Ce qui n'était pas du tout logique, ni dans les normes, non. Et moi, je dis, non, mais c'est pas possible. L'autre doit être très triste, l'autre, elle veut rester avec son fils, c'est normal, et tout. Et non, c'était pas comme ça. Et elles m'ont menée comme ça.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, sans aucun pathos. Hein,
aucun. Ah non, pas du tout. Elles sont ravies.
mais sans rationaliser non plus beaucoup ce qu'elles font, enfin avec
non,
une certaine
non,
spontanéité tranquille.
Oui, comme oui, ça. Oui. Et bon, voilà, bon, ça c'est une partie du livre.
Alors, il y a un autre thème qui est intéressant entre ces deux personnes, parce qu'elles l'évoquent, c'est l'enfance.
Ah oui.
Vous dites, au fond, finalement, ce que vous faites dire aussi à votre personnage principal, Antonio Aedo, depuis longtemps il attend, mais ce qu'il attend, il le sait, est déjà arrivé. Mmh. Et au fond, ce que nous avons déjà eu, qui est déjà arrivé, c'est l'enfance. Mmh. Et entre ces deux femmes, l'une dit ça à l'autre.
Oui.
Elle dit en fait, nous n'aurions jamais dû partir de ce village. Et l'une dit tout simplement, ça a été le seul temps pour moi.
Hein, voilà.
Celui de...
Elles ont
Jung,
qui est un petit village qui existe, qui s'appelle ce nom, j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, Jung.
Ah oui, jeunesse.
Tout à côté de Fray Ventos, il existe comme ça, il s'appelle comme ça. Et oui, les deux, en parlant l'une avec l'autre, se rendent compte que tout ce qu'elles ont vécu depuis qu'elles sont sorties de l'enfance est un désastre. Est vraiment raté. Enfin, les deux avec un mari qui était alcoolique, les deux avec des difficultés, une qui a une fille malade, indifférente, et bon, qui va mal se finir, l'autre qui a un fils étrange, qui ne pense qu'au livre, qui la mémoire de ses livres et de tout ce qu'il sait. Et ces deux femmes sont seules tout le temps et très malheureuses. Et alors, quand elles se parlent là, qu'elles traversent le pont, elles se disent... Mais il n'y a qu'un seul, d'abord, il n'y a qu'un seul amour, c'est l'amour de nos parents.
Des parents.
Oui. Des parents.
C'est ça.
Et il n'y a qu'un seul beau temps, c'est celui de l'enfance. Et celui de... Avant, il y en a une qui finalement se décide qu'il faut qu'elle se marie, Emilia, non? Et elle dit, à la fin, il fallait que je fasse comme tout le monde. Disons que c'était un pas pour devenir... adulte pour devenir bon que, comme tous les autres le faisaient, mais qu'elle au fond ce qu'elle voulait c'était rester avec ses parents qu'elle aimait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, mais en plus je vais dire que j'ai pensé beaucoup parce qu'en Uruguay il y avait beaucoup et en Argentine aussi de gens un peu comme ça qui restaient avec les parents
Qui
adoraient ça, voilà, qui adoraient ça, qui étaient et voilà qui restaient pour toujours célibataire ou qui n'osait pas ou des choses comme ça. Et ça, je suis assez inspirée aussi par des souvenirs de là-bas. Et donc, elle ressemble aussi à la réalité, ces deux femmes.
Oui, voici par exemple juste, hein, Rosie, tu es la seule à m'appeler ainsi, puisque l'une s'appelle Rosa et l'autre Emilia. C'est Emilia qui parle. Je crois qu'on n'aurait jamais dû quitter Jung. Après ça, je n'ai pas vécu. Seul ce petit bout de vie bat en moi, si bref et si puissant. Le reste ne compte pas. Jung est ma boussole, toi et moi en classe et les parents à la maison. Où sont-ils? Etc. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, d'extrêmement
important. Vous
savez,
je me souviens en Uruguay, et c'est pour ça... Des personnages comme ça, parfois, de la réalité. Et bon, ça tourne dans ma tête aussi. Il y avait quatre cousines de ma grand-mère qui étaient uruguayennes. Je ne sais pas peut-être si vous avez entendu parler, elles s'appelaient Munjo. Qui étaient des parentes, donc, de la mère de ma grand-mère, non, des cousines germaines. Elles étaient quatre sœurs et elles habitaient ensemble. On les appelait les Munjo, la Munjo, non. Et puis, elles avaient un petit atelier de couture pour faire les robes de mariée. Et elles habitaient... Alors moi, j'adorais écouter. Elles habitaient Montevideo. Les histoires de ces quatre femmes qui vivaient seules. Il est arrivé un moment donné, il n'y avait aucun homme qui rentrait chez elles. Et arrivé un moment qu'une a été malade. Et alors, elles ont appelé un cousin qui était médecin. Le cousin est arrivé et celle-là est tombée amoureuse du médecin. Et ça a été un drame. Les autres ne lui ont plus parlé, l'ont obligé à rompre, des choses horribles. C'est des histoires que ma grand-mère me racontait. Oui.
Mais c'est la casse des Bernard d'Albe, on le sent.
Oui, comme ça. Hein? Mais disons qu'on vous le racontait comme la chose la plus naturelle.
Oui.
Et moi, je disais, ah oui, c'est comme ça s'est passé comme ça. Ah bon. Mais après, ce sont des choses qui me sont revenues, mais elles sont mortes toutes les quatre, en train de coudre là et tout. Et personne n'a cédé. Et l'autre, je crois qu'elle a été mise en pénitence. On ne lui donnait pas à manger ni rien à cause de ce cousin. La pauvre, ce n'était pas sa faute, elle était malade. Bon, des histoires comme ça, c'est ma grand-mère qui me les racontait. Elle était cousine germaine de ces quatre célibataires.
Alors, on retrouve aussi, bien sûr, l'Uruguay, l'Argentine, terre d'exil. Vous parlez, vous évoquez cela. Ces terres qui sont, en effet, qui ont été constituées d'immigrés, de gens qui ont constitué une nouvelle nation à partir de 36 nations en exil. Et puis, il y a bien sûr la façon que vous avez d'écrire. C'est ce que je disais au début. Au fond, vous aimez bien les récits un peu inclassables, mais votre écriture aussi, elle est à la fois, elle raconte, elle est narrative, mais elle est aussi elle emprunte beaucoup, beaucoup à la poésie et au phrasé, on peut dire, et à la façon qu'a la poésie de dire les choses. Énormément.
Ça, c'est naturel.
C'est naturel chez
vous. Ça, je ne me rends pas compte. Alors là.
Par exemple, je peux juste lire quelques lignes parce que, au fond, les livres, il faut surtout les entendre. On peut en parler, bien sûr. Mais dans le temps immobile, le silence s'est approché de lui. Non pas un silence ordinaire comme celui de l'absence ou de la solitude, mais un silence distinct, principal, qui, de sa lumière intérieure et extérieure, peuple sa méditation. Il n'a plus besoin de se tourner vers ses personnages, il sait ce qui leur arrive et les actions qu'ils vont fatalement entreprendre. Ayant reçu face au Rio de la Plata, qui ne s'achève nulle part, le sacrement de l'espace, Antonio est arrivé dans la vie par un chemin sans frontières. Et en évitant la direction des autres, entre des murs étroits, il a dévié de la réalité commune avec ses échecs, ses succès, ses échecs camouflés. Et il écoute son âme, vouée à ne pas cesser. Sur la scène de la nuit, les comédiens s'apprêtent à jouer sans masque. Antonio ne les dirige pas, il les seconde, enfin qu'ils soient fidèles à leur propre rêve.
Oui. Voilà. Il est sympathique, Antonio, il est un personnage sympathique, non?
Oui, très. Très, très sympathique.
Sympathique, oui. Personne.
Par cette capacité qu'il a aussi, lui, à être entre eux. Le jour, la nuit, ici, ailleurs, le présent, le passé, et puis l'imagination.
Oui, c'est ça.
Regarder ces personnages autant qu'il les rêve.
Oui, oui.
Et c'est...
Il est sympathique parce qu'il est très seul aussi, et puis qu'il n'est pas... C'était un avocat qui était très brillant, à un moment donné, mais qui finit sa vie seul, qui n'a jamais aimé les honneurs ni la gloire. Il dit « la gloire m'agace ».
Oui.
Il finit seul, et donc tout le livre c'est ses souvenirs, mais il est aussi un petit peu étrange comme ça, comme arrivé de la lune un peu. Ça je l'aime bien,
fait.
Je l'aime beaucoup.
Ah oui, exactement comme on dit aux enfants, tu es dans la lune
un peu. Un peu,
oui.
Mais ça m'avait beaucoup touchée dans ce. Parce qu'il y a très peu de gens qui savent que Borges, ce grand écrivain argentin, était moitié uruguayen. Donc sa mère était uruguayenne. Et sa mère était de la famille de ma mère. Elle s'appelait Aedo. Il y a Aedo Arocena. Arocena, c'est le nom de ma mère. Et donc, et il adorait l'Uruguay. Et disons, nous avions un petit peu des échanges où il savait tout de suite si moi j'arrivais. Parce que, et alors il me disait tout de suite, l'Uruguayen qui arrive. Et donc Antonio Aedo est un Uruguayen. Et il y a entre les Uruguayens et les Argentins une différence assez grande. C'est des hommes et des femmes d'une grande culture humaine qui se protègent du progrès bête, qui n'aiment pas l'argent, qui, donc, les Argentins disent toujours « l'Uruguay est resté, elle est restée là, elle ne progresse pas, c'est un pays qui ne progresse pas, ça m'énerve. » Parce que, justement, ils sont, eux, dans une sagesse, et quand on parle, on n'a qu'à prendre le bateau, on arrive là, et dès qu'on parle avec des gens, ou n'importe où, dans un café, ou dans la rue, on voit tout de suite cette espèce de... Ils ont une espèce de plénitude, de savoir naturel, dans tous les étages de la société. Et c'est une chose qui m'émerveille et qui n'est pas assise ni sur un pouvoir, ni sur de l'argent, ni sur la société. Rien du tout. Ils sont comme ça. Et je crée des liens très, très vite et très affectifs tout de suite avec eux, moi. Donc je crois que je suis très, très proche de la famille de ma mère, finalement. Et c'est pour ça que j'ai repris tout ça aussi.
Eh bien, voilà pour que vous entendiez quelque chose de ce dernier roman, récit plutôt.
Bien, merci beaucoup. Merci à vous.